La jeunesse du prince. Dans tout le royaume, les réjouissances et les festivités saluèrent ma venue au monde. Pourtant, la tristesse s'abattit sur le palais lorsque, 7 jours après ma naissance, ma mère mourut. Ce fut ma tante maternelle qui m'éleva et prit soin de mon éducation, me prodiguant tendresse et affection. Puis, lorsque j'eus atteint l'âge de 7 ans, ce fut au tour d'un maître de m'instruire dans les 64 arts qui sont traditionnellement enseignés aux princes. J'aimais apprendre et montrais du goût pour les études. J'aimais la grammaire aussi bien que les mathématiques et la musique. J'excellais au jeu d'échecs autant qu'à la lutte et au maniement des armes. J'étais versé dans l'art délicat des parfums, et dans le même temps, j'étais habile à diriger des chars et à conduire des éléphants. Oui, j'aimais étudier et apprendre, mais plus que tout, j'aimais assister mon père lorsque celui-ci rendait la justice. Un jour, je venais d'avoir 7 ans. Je l'accompagnais dans un village de paysans, aux abords du palais royal. C'était l'époque des labours, et la coutume voulait que le monarque traça le premier sillon. Afin de me protéger du soleil, j'allais m'asseoir sous un pommier rose aux larges frondaisons et contemplais attentivement la cérémonie. Pourtant, c'est à peine si je voyais le rituel royal qui se déroulait sous mes yeux. En revanche, je voyais distinctement les hommes s'échiner, transpirer sous le soleil brûlant, les bœufs peinés sous le joug, la terre se fendre tandis que le soc de la charrue déchiquetait les racines, les plantes et jusqu'aux petits animaux qui vivent enfouis dans ces profondeurs. Et il me semblait que les souffrances des paysans, des bœufs, de la terre, des plantes et des insectes étaient miennes. Puis j'aperçus une fourmi qu'un lézard venait d'attraper d'un coup de langue, et je vis un serpent dévorer à son tour le lézard, et enfin un vautour qui, planant haut dans le ciel, fondit soudain sur le serpent et l'emporta dans ses serres. Et mon cœur s'emplit à nouveau de tristesse et de compassion pour la fourmi, le lézard et le serpent, et pour toutes les créatures de la terre. Je restai longtemps assis sous les frondaisons du pommier rose, perdu dans mes pensées. La matinée était bien avancée et le soleil poursuivait à travers le ciel son implacable trajectoire. Et pourtant, ô Ananda, lorsqu'enfin je sortis de ma méditation et me levai pour regagner le palais royal, je constatai que l'ombre du pommier rose, sous lequel j'étais resté assis de longues heures durant, était demeurée immobile et n'avait pas suivi la course du soleil. Immobile, comme pour mieux abriter ma méditation. Sache, Ananda, qu'à compter de ce jour, une étrange tristesse se déposa sur mon âme comme un voile de poussière qui ternissait le monde et m'empêchait de voir et de goûter pleinement les joies de l'existence. Même lorsque j'étais plongé dans l'étude ou les jeux de mon âge, mes pensées revenaient souvent vers le pommier rose, la cérémonie du premier sillon et le spectacle qui s'était offert à mes yeux ce jour-là, et dont je ne pouvais alors comprendre pleinement le sens véritable. Les années passèrent, cependant, et je grandis, forcis et mûris. Lorsque j'atteignis ma 16e année, mon père, à qui ma tristesse n'avait pas échappé, songea que le temps était désormais venu de me trouver une épouse. Seul l'amour saura faire oublier au jeune prince sa mélancolie, confia le monarque soucieux à ses conseillers. Qu'une grande fête se tienne donc au palais, à laquelle seront conviées les plus belles jeunes filles du royaume. Le prince Siddhartha choisira pour épouse la plus gracieuse et la plus douce d'entre elles, et à ses côtés, il retrouvera sa joie de vivre. Aujourd'hui défilèrent devant moi les plus ravissantes jeunes filles, toutes parées de bijoux et de fleurs et vêtues de riches atours. Je les dévisageais avec indifférence. Ne se ressemblaient-elles pas toutes? Lorsque soudain mon regard se posa sur la dernière d'entre elles. Sa beauté était grande, certes, et je crus alors que c'était uniquement en raison de la finesse de ses traits, de la fraîcheur de son teint ou encore de l'éclat de ses yeux, que je la distinguais d'entre toutes ses compagnes. Mais je sais maintenant que si je me sentis aussitôt attiré vers elle, c'est qu'en fait, je la connaissais depuis fort longtemps, depuis toujours. Nos chemins s'étaient croisés, il y avait bien longtemps de cela, au cours d'une de nos existences antérieures, et c'est pourquoi je l'avais d'emblée reconnue. Je me rappelais alors que dans cette existence lointaine, je menais la vie austère d'un étudiant brahmanique, un brahmacharine, et un jour que je voulais me procurer des fleurs pour en faire une offrande, je rencontrai sur mon chemin une jeune fille qui portait un beau bouquet. À ma requête, elle accepta de me céder quelques-unes des fleurs qui le composaient, mais en exigea un prix fort élevé. Or, le jeune brahmacharine que j'étais alors, pauvre, ne possédait guère d'argent pour payer d'humbles fleurs. Et comme je m'en excusais, la jeune fille à l'âme noble et généreuse me dit, avec un sourire, « Dans ce cas, laisse-moi te faire don de ces fleurs. Il suffira que tu t'acquittes de ta dette envers moi dans une existence future, en me prenant pour épouse. » Voilà pourquoi je reconnus aussitôt cette jeune fille qui se prénommait Yashodhara et la choisit parmi toutes les autres. Mais pour obtenir la main de Yashodhara, les usages de notre royaume voulaient encore que je me soumette à une série d'épreuves de force et d'adresse, où devaient également s'affronter 500 jeunes princes. J'étais alors d'une force prodigieuse, Ananda, et je triomphais aisément des autres prétendants. Vint enfin le tour de l'épreuve décisive, celle du tir à l'arc. Comme en me jouant, je bordais l'un après l'autre tous les arcs qu'on me présentait, et ma force était telle que je les brisais les uns après les autres. Bientôt il ne resta plus qu'un seul arc dans le palais, celui qui avait appartenu à mon ancêtre, Sinharanu. Il était si volumineux et si lourd que nul depuis sa mort n'était parvenu à le soulever. Pourtant je parvins, moi, à soulever cet arc énorme. Je l'élevai vers le ciel, je le tendis et je décochai une flèche, qui, après avoir traversé plusieurs cibles, vint se planter dans le sol, où elle fit jaillir une source d'eau pure. Je sus alors que j'avais gagné la main de la belle Yashodhara. Les années passèrent, et je coulai des jours heureux auprès de ma douce épouse, que j'aimais tendrement et qui m'aimait en retour. 13 longues années se succédèrent ainsi, qui s'écoulèrent dans le bonheur conjugal, et furent vécues dans le luxe, l'oisiveté et les plaisirs de toutes sortes. Car le roi, mon père, inquiet de mes brusques accès de tristesse, faisait en sorte de m'épargner tout ce qui eût pu me contrarier, me déplaire, m'irriter, et surtout me causer de la douleur ou de la peine. Aussi allais-je de fêtes en divertissement, et ne connaissais-je alors du monde et de la vie que leurs aspects les plus gais et les plus riants. Lorsqu'un jour, comme je décidais d'aller me promener dans les parcs de plaisance, situés aux alentours du palais royal, je fis 4 rencontres décisives qui allaient bouleverser ma vie et modifier à jamais le cours de mon existence. La jeunesse du prince, extrait du livre Sur les traces du Bouddha, paru aux éditions Gallimard Jeunesse.